À vous, les Burgiens. Votre magazine d'infos 100% local. Interview, reportage, suivez-nous, on est les seuls à vous y emmener.
Bonjour à toutes et à tous. Des professeurs des écoles en grève. Mobilisation nationale mardi dernier. Le point sur les revendications avec le secrétaire départemental de la FSU, professeur des écoles à Oyonnax et un professeur des écoles à Bourg. On les retrouve dans quelques secondes. Connaissez-vous la justice restaurative? Trois structures vont développer un espace de rencontre dans l'Ain. Une des personnes investies dans ce projet nous expliquera comment ça se passe. Avec elle, dans nos studios, une burgienne qui souhaite y participer. Et quelques infos en bref à la fin de ce magazine. 55% de grévistes dans les écoles maternelles et élémentaires, 75 écoles fermées. Ce sont les chiffres dans l'Ain du SNU-IPP, FSU 01, le premier syndicat des écoles en France. Pour la journée de mobilisation, mardi dernier, le 19 mars, contre le projet de loi École de la confiance de Jean-Michel Blanquer, l'actuel ministre de l'Éducation nationale, adopté en première lecture à l'Assemblée nationale il y a un mois. Autre revendication, l'augmentation des salaires, les enjeux climatiques, la défense des services publics ou encore la justice fiscale. Le matin de la mobilisation, l'Assemblée générale départementale, Éducation nationale de Bourg-en-Bresse, avec une soixantaine de syndiqués et non syndiqués, a voté quatre décisions, dont un appel à la grève reconductible dès ce lundi, le 25 mars. Pascal Baudet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire départemental de la FSU, la Fédération syndicale unitaire, et professeur des écoles à Oyonnax. Rémi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur des écoles à Bourg-en-Bresse. Pascal Baudet, Rémi, êtes-vous en grève aujourd'hui?
Alors, à titre personnel, non, parce que la grève reconductible qui a été votée la semaine dernière en AG, elle n'est pas si simple à construire. Et même si sur le papier, c'est une volonté, une détermination des personnels et des enseignants notamment, il est clair que se lancer quand on se sent un peu isolé parfois dans son coin, ça ne se fait pas aussi simplement. Donc là, on est en train d'essayer de justement mobiliser pour se lancer, mais à ce jour, pas encore.
Rémi ?
Non plus. Pour une raison assez simple, c'est qu'une grève, c'est de l'argent. Un jour non travaillé, ben c'est un jour non payé, et que se permettre de ne pas travailler plusieurs jours, ça fait quand même un salaire diminué à la fin du mois. Si demain l'ensemble des collègues de mon école se dit pourquoi pas, on se met tous en grève, ben, si le rapport de force peut permettre de faire avancer les choses, peut permettre d'obtenir un recul du ministre, peut permettre d'avoir des postes en plus et non des suppressions de postes, oui, dans ce cas-là, je suis prêt à me mettre en grève reconductible.
55% de grévistes, 75 écoles fermées, c'est important comme mobilisation?
C'est du jamais vu, enfin très rarement en tout cas, surtout parce qu'au départ, cette journée de grève du mardi 19 était une journée interprofessionnelle, c'est-à-dire public-privé. Et on s'est aperçu que beaucoup d'enseignants se mobilisaient, enfin d'enseignants et de personnels de l'éducation, parce que j'oublie pas les autres personnels, notamment les AVS qui accompagnent les enfants en situation de handicap. Et beaucoup de personnels se sont mobilisés sur ces questions, sur cette question de la loi Blanquer notamment. Après, il y a d'autres points aussi dont il faudrait parler sur le second degré dans les collèges et les lycées, mais dans les écoles maternelles et élémentaires, le point principal de mobilisation, c'était par rapport à cette loi Blanquer.
Ça, on va en reparler. Pascal Baudet, Rémi, quel est votre quotidien comme professeur des écoles? Vous pouvez raconter concrètement quelques mots. Rémi?
Alors, mon quotidien, c'est des classes qui sont quand même relativement chargées, même si j'ai la chance d'enseigner dans un quartier où on a des limites qui sont un peu plus inférieures que la moyenne. On avait jusqu'à cette année une enseignante supplémentaire dans l'école qui va nous être retirée à la rentrée. Donc depuis que je suis sur cette école, j'ai en fait l'impression que les moyens qu'on a pour enseigner diminuent d'année en année. On se demande où est-ce qu'on va s'arrêter, et pourtant je suis pas dans cette école depuis très longtemps. Et à côté de ça, on rajoute un petit peu un mépris, pas forcément de la part de la hiérarchie, mais de la part du ministre, où moi j'ai l'impression d'être de temps en temps un simple auxiliaire d'enseignement chargé d'appliquer des programmes. La loi Blanquer va me demander de ne plus donner mon avis. J'ai vraiment l'impression d'être un auxiliaire d'enseignement et c'est tout.
Est-ce qu'il y a quand même quelques points positifs ?
Oui, je me lève tous les matins pour avoir face à moi des élèves, pour enseigner dans la bonne humeur. Les élèves le rendent souvent plutôt bien. Donc non, c'est être avec les élèves tous les jours, ça apporte son lot de joie, son lot de bonheur.
Pascal Baudet, même constat que Rémi ?
Oui, le quotidien en classe demande beaucoup de préparatifs et on y pense énormément en dehors de la classe et on y travaille énormément en dehors de la classe. C'est quelque chose que bien des gens ne réalisent pas. Mais le quotidien en classe, même si on a parfois des élèves difficiles, moi je suis en éducation prioritaire, mais je sais que sur Bourg, il y a des écoles aussi avec un public difficile. Le quotidien en classe avec les élèves devant nous, enfin avec nous, est très riche et intéressant. Après, on se rend compte effectivement qu'on a des élèves et des populations qui sont parfois en souffrance, et nos élèves, ils nous le font sentir. Enfin, c'est pas méchant ce que je dis, mais on s'en rend compte. Et puis, effectivement, il nous tombe sans arrêt des réformes à chaque ministre, et particulièrement avec celui-là, qui nous déstabilise dans notre pratique, on va dire, et dans notre volonté de bien faire. Enfin, il ne s'agit pas de ne pas vouloir bien faire, mais ça nous met parfois en difficulté.
Pascal Baudet, à propos de la loi Blanquer, le communiqué du SNUIPPFSU de l'Ain parle d'une loi fourre-tout. Concrètement, qu'est-ce qu'elle prévoit ?
Alors c'est un peu long à expliquer parce qu'effectivement il y a beaucoup d'articles qui sont très différents. Il y a au départ un article qui était annoncé d'ailleurs, connu depuis quelques mois, c'est-à-dire la scolarisation obligatoire dès l'âge de 3 ans. Donc cet article-là, on savait qu'il était dans les cartons, entre guillemets, et la seule chose que personne... qui n'était pas annoncé, c'est qu'il y a une conséquence de ça. C'est-à-dire que ça, sur le principe, c'est effectivement un bon principe, une bonne chose. Pourquoi pas ? Mais la conséquence derrière, qui est grave à nos yeux, c'est que pour les municipalités, il va falloir payer, financer la scolarisation de tous les enfants de 3 ans, à partir de 3 ans, y compris ceux qui vont dans les écoles privées. Alors, il ne s'agit pas de faire la guerre publique-privée, quoique nous, on est un syndicat quand même d'enseignants du public, et donc on défend l'école publique avant tout. Mais le problème, c'est que les municipalités, les mairies, sont, on le voit bien depuis quelques années, ont des budgets qui sont serrés et de plus en plus compliqués. Et donc, ce que l'on craint vraiment, c'est que les budgets, du coup, des écoles publiques soient en diminution du fait de cette mesure.
Rémi ?
Et je crois également que la scolarisation obligatoire à 3 ans pour certaines municipalités va remettre en question également la scolarité dès 2 ans, qui pour certains enfants, dans certains milieux, est vraiment un avantage et leur apporte déjà une première socialisation et un développement du langage assez important, et à choisir pour certaines communes entre scolarité à 3 ans ou scolarité à 2 ans pour certains enfants. Certains enfants à 2 ans, ne pourront plus aller à l'école.
Donc là, c'était, pour rappeler, c'est obligatoire à partir de 6 ans.
Oui. Actuellement, oui.
Actuellement, ouais, 6 ans, 16 ans. Mmh. Il est maintenant obligatoire jusqu'à 18 ans aussi.
Sachant que on est de l'ordre de 95% des enfants qui étaient déjà scolarisés à 3 ans. Donc oui, c'est un avantage pour le privé uniquement.
Est-ce qu'il y a des mesures que vous trouvez intéressantes ? Pascal Baudet.
Alors, mis à part le principe de celle-ci, mais pas les conséquences, il y a beaucoup de choses qui à nos yeux, sont critiquables. Et le problème, c'est que cette loi, dans les grands médias, je ne parle pas de Radio B ici,
merci,
mais dans les grands médias, les seules choses dont on a entendu parler, c'est le drapeau dans toutes les classes, la Marseillaise, parent 1, parent 2 sur des fiches d'inscription. Et c'est pas que ces questions ne sont pas intéressantes, mais par rapport au contenu de la loi, il y a des choses qui sont très, très dangereuses dans le reste de la loi. Donc malheureusement, on a une couverture médiatique, et encore une fois, c'est bien dans les médias nationaux dont je parle, c'est une couverture médiatique qui évacue, j'espère que ce n'est pas volontaire, mais qui évacue les vrais articles de fond qui sont dans cette loi.
Et ces articles de fond, ce serait des idées qui... Enfin, je vous posais la question, c'est s'il y a des mesures que vous trouvez intéressantes. Est-ce que c'est des mesures que vous trouvez intéressantes ou c'est quand même des mesures qui demandent d'être davantage expliquées, ce que vous disiez?
Alors non, dans les autres mesures dont on n'a pas encore parlé, enfin, moi, j'y vois pas grand-chose de positif. Hein. Il faudra qu'on
développe.
Globalement,
voilà, vous trouvez pas quelque chose de... Mais je vous parlais donc de ces points sur lesquels on puisse se cristalliser certains médias. Mais vous auriez aimé qu'on parle de quoi, par exemple? Quelques mesures comme ça, vraiment des points sur lesquels il faudrait insister. Rémi?
Qui sont dans la loi ou des choses qui pourraient faire avancer
Qui sont dans la loi. Là, on reste à la loi. Pascal Baudet disait, bah oui, mais il y a certains médias qui se concentrent sur certains points, comme le drapeau de la France, l'Europe, tout ça dans la classe. Mais il y a d'autres points qui mériteraient d'être développés. Lesquels, par exemple?
Il y a d'autres points pour moi qui mériteraient d'être développés et qui sont tout aussi problématiques. C'est notamment le fait qu'un établissement, qu'un collège puisse chapeauter plusieurs écoles primaires et que les écoles primaires deviennent d'une certaine façon des succursales du collège, et de telle sorte à ce que la démocratie qui existe dans une équipe pédagogique, chacun donne son avis, on fait évoluer le projet de l'équipe, le projet de l'école, tous en commun. À partir du moment où on a un principal adjoint qui chapeaute plusieurs équipes, on va se retrouver avec des écoles un petit peu, pas en roue libre, mais presque, puisque les conseils de maîtres n'auront plus forcément le même rôle. On n'aura plus forcément la même latitude pour travailler en équipe et on aura un supérieur hiérarchique qui sera vraiment fort présent, parce qu'actuellement les directeurs, directrices d'école ne sont pas nos supérieurs hiérarchiques, ce qui fait que dans une équipe, ils organisent aussi le débat, ils permettent vraiment une harmonie dans l'école. Avec un supérieur hiérarchique qui chapeaute tout ça, c'est pas du tout la même au jour le jour, on vivra pas la même chose, je pense.
Pascal Baudet, vous, une mesure?
S'il faut aller vite sur cette loi, c'est effectivement, moi, sur cet article-là, effectivement, que je pense qu'il faut développer les fameux EPSF, encore un nouveau sigle, on adore ça, Établissement Public des Savoirs Fondamentaux. Déjà, le nom veut dire beaucoup de choses, mais c'est surtout que derrière...
Ça, c'est par rapport à la formation.
Alors non, les EPSF, ça rejoint ce que disait Rémi auparavant, c'est la fusion possible. C'est un nouvel établissement public qui regrouperait un collège avec plusieurs écoles. On ne sait pas le nombre exact, mais plusieurs écoles. C'est une vraie restructuration de fond de l'école. Alors, je vais utiliser un terme d'antan, de l'école communale, comme on la connaissait avant. Parce qu'effectivement, il n'y aurait plus dans chaque école un directeur ou une directrice, d'ailleurs, qui est quand même un relais, un contact important vis-à-vis des familles. Il y aurait une gestion administrative des écoles qui, effectivement, se ferait sous la direction d'un principal de collège, donc avec une culture quand même qui n'est pas la celle du premier degré. Et nous, ça nous pose une vraie crainte, enfin plus que des craintes, parce que là on est dans un stade de colère, parce que cette mesure, elle n'apportera rien comme bénéfice pour la réussite des élèves. C'est uniquement une mesure technocratique avec des économies budgétaires en nombre, parce que c'est possiblement la suppression de plein de postes de directeurs et de directrices.
Quelles seraient alors vos mesures à vous pour faire réussir les élèves?
Malheureusement, moi j'ai surtout des mesures qui coûtent cher, quoi. C'est-à-dire que pour nous, la question centrale, ce n'est pas que les moyens, alors, il faudrait qu'on développe là aussi, mais c'est une question aussi de postes. On parle beaucoup dans le grand débat actuellement, le grand débat national, des services publics. On est en train de nous dire qu'il faut faire des choix d'ailleurs entre ces différents services publics. Nous, on pense que si on veut une école qui permette la réussite, encore une fois, c'est ça notre objectif. Bien souvent dans les actions et dans les grèves aussi que l'on mène, c'est ce qu'on a fondamentalement en tête. C'est la réussite du plus grand nombre de nos élèves. Eh bien, cette réussite-là, elle ne passera pas par des économies de postes d'enseignants. C'est pas
donc
possible.
Donc, c'est-à-dire, vous voulez plus de postes d'enseignants?
Eh oui.
Rémi, oui. Une mesure?
De même, la réduction du nombre d'enseignants, ça augmente une augmentation des effectifs par classe. Donc, demander plus de postes, c'est également demander moins d'élèves par classe. Et à ça, pour moi, quelque chose qui doit être essentiel, c'est une formation continue qui doit être réelle. Actuellement, on a 18 heures de formation par an, dont 9 heures sur ordinateur. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de métiers où il y a seulement 9 heures de formation réelle par an. C'est... Il y a énormément de salariés, quand je leur donne ce chiffre, je leur dis, ah, moi, j'ai 9 heures de formation par an, ça les offusque, ça les choque. Et des parents sont choqués également quand ils savent qu'on a finalement 9 heures chaque année pour approfondir, pour améliorer nos compétences, pour en développer des nouvelles. Et il me semble que dans une équipe d'enseignants, le fait d'avoir des compétences variées, des compétences diverses, ça enrichit aussi la formation des élèves par la suite.
En choisissant de devenir prof, ils ont toujours su qu'ils ne gagneraient pas des 1000 et des 100, mais ils pensaient avoir gagné l'assurance de finir les mois sans angoisse. Donc c'est le début d'un article publié sur challenge.fr au mois de janvier. Pascal Baudet, Rémi, qu'en pensez-vous en quelques mots?
Alors, Pascal Baudet. Effectivement, l'angoisse en ce moment, elle est comment dire? Elle vient directement de ce qui se passe au niveau ministériel, c'est-à-dire que c'est pas notre métier en tant que tel au quotidien qui, enfin même s'il est prenant et parfois difficile, hein, il faut pas se le cacher, c'est vraiment ce qui nous tombe, parce qu'en ce moment ça nous tombe de là-haut des ministères, qui déstabilise tout le monde. Vous parlez à un directeur ou à une directrice d'école. Il va vous dire, mais à la rentrée prochaine, je ne sais même pas si je serai encore directeur ou directrice.
Voilà. Ils ne savent même pas s'ils vont garder leur poste.
Alors,
et pour ceux qui gardent leur poste, ce que dit le début de cet article, c'est qu'il y a de plus en plus de précarité. C'est ce que vous disiez, Rémi, au début de l'interview, que vous ne faites pas grève parce que forcément, de faire grève, ça veut dire renoncer à plusieurs jours de salaire.
Comme pour tout fonctionnaire, l'avantage, c'est qu'on a un salaire qui est garanti à vie. Et encore, c'est discutable, mais ça reste jamais de gros salaires. Quand j'ai voulu faire un prêt, ma banquière m'a dit, dans les banques, on aime bien les fonctionnaires, on sait que c'est pas eux qui épargnent, mais on sait que tous les mois, il y a quand même la mensualité qui tombe. Et donc, on ne vivra jamais réellement dans la précarité, parce qu'il me semble qu'il... Comparé à nos salaires, il y a vraiment des personnes qui sont dans la détresse, mais on n'a pas les niveaux des années 70 ou des années 80 en termes de salaire. Est-ce qu'il faut voir aussi le coût de la vie qui est bien, bien plus important?
Pascal Baudet?
Oui, tout à l'heure, je parlais des AVS. Dans cette loi Blanquer, il y a un article aussi qui va avoir des conséquences aussi sur les élèves, parce que ces personnels AVS, alors pour le coup, qui eux sont très précaires en termes de contrat et de salaire, de niveau de salaire. Dans cette loi Blanquer, il y a un article qui propose, encore un sigle, désolé, les PIAL, qui est une sorte de structure qui va permettre de mutualiser les AVS. Et mutualiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de recruter autant d'AVS que nécessaire pour tous les élèves en situation de handicap, on va mutualiser les personnes qu'on a sur plusieurs écoles pour faire face à tous les élèves qui en ont besoin, mais pas autant d'heures que nécessaire. Donc là, il y a quand même quelque chose qui est incroyable par rapport à nos familles et à nos élèves, et notamment à ceux en situation de handicap. C'est qu'il y a quand même une mesure dont personne n'a parlé, mais qui est énorme en potentiel économique, on va dire, sur le dos du service public. Et puis, je revenais sur les précaires, puisqu'on parlait de précaires. Effectivement, les enseignants ou les personnels fonctionnaires titulaires, on ne peut pas parler de précarité au niveau des contrats, évidemment. Par contre, il y a une autre loi qui pointe son nez, là, qui devrait être votée en juin, qui est la loi de transformation de l'action publique, encore des jolis termes, et qui, elle, prévoit le recours massif dans toute la fonction publique à des contractuels. Contractuels, ça va être des personnes qui vont venir dans les classes, de la maternelle au collège, voire au lycée, et qui pourront enseigner. Et si on a besoin d'eux 3 mois, eh bien, on les prendra 3 mois, au bout de 3 mois, on les laissera dehors, quoi. Et c'est un recours, ça existe déjà, hein, dans pas mal de services publics, il ne faut pas se mentir. Mais ce recours massif aux contractuels, d'autant plus dans l'éducation nationale, pour nous, il est inacceptable. Et encore une fois, c'est que des raisons idéologiques et économiques qui nous amènent à ça.
Pascal Baudet, merci. Vous êtes le secrétaire départemental de la Fédération syndicale unitaire, professeur des écoles à Oyonnax. Rémi, merci. Vous êtes professeur des écoles à Bourg-en-Bresse. Un nouveau mouvement est prévu dans toute la France ce samedi, le 30 mars. Dans la région, une manifestation commune aux académies de Lyon et Grenoble est organisée à Lyon.
Radio B.
J'ai cru que vous vouliez que je vienne pour me zigouiller.
Qu'est-ce qui me prouve que je n'allais pas recommencer ?
C'est vous que je veux entendre, monsieur Gouvert, vous. Parce que depuis 25 années, je vous dis, mais c'était quoi ? C'était quoi la vie de ce type pour qu'il fasse un truc pareil ?
Je sais que j'ai fait une grosse connerie.
Tu te sens coupable pour ça ?
Bah oui.
Fais chier à gémir comme ça, là, comme une gonzesse. T'as de la chance d'avoir mal, parce que moi, je peux plus avoir mal. Tu vois, je peux plus avoir mal.
Alors, vous voulez que je continue ?
Oui. Mais qu'est-ce qui me prouve que c'est pas des conneries, tout ce que vous dites ?
Mais pourquoi vous voulez que je vous raconte des conneries ? Vous croyez que je suis venu ici ? Pourquoi ?
Vous êtes une faute de la nature, une erreur.
Relève la tête. Relève la tête, je te dis.
C'est quoi ce truc-là ?
Non, non, non !
Et puis, il y a quoi là-dedans ?
Non, y a...
Dites-le-moi. Pourquoi j'ai voulu qu'on se rencontre là ? Il y a quoi là-dedans ? Il y a quoi là ?
Il y a rien !
Moi aussi, j'aurais pu venir un monstre, hein ?
Un monstre ?
Restez à l'écoute du 90 FM, on se retrouve dans quelques minutes. l'émission de Utopique sur Radio B avec In the Corner. Ce duo originaire de Rhône-Alpes sera à la Tannerie ce vendredi 29 mars. Gagnez vos places en écoutant Radio B.
À vous, les Burgiens, sur Radio B 90 FM.
J'ai cru que vous vouliez que je vienne pour me zigouiller.
Qu'est-ce qui me prouve que vous n'allez pas recommencer ?
C'est vous que je veux entendre, monsieur Gouvert. Vous. Parce que depuis 25 années, je me dis, mais c'était quoi ? C'était quoi la vie de ce type pour qu'il fasse un truc pareil ?
Je sais que j'ai fait une grosse connerie.
Tu te sens coupable pour ça ?
Bah oui.
Fais chier à gémir comme ça, là, comme une gonzesse ! T'as de la chance d'avoir mal, parce que moi, je peux plus avoir mal. Tu vois, je peux plus avoir mal.
Alors, vous voulez que je continue?
Oui.
Mais qu'est-ce qui me prouve que c'est pas des conneries, tout ce que vous dites?
Mais pourquoi vous voulez que je vous raconte des conneries? Vous croyez que je suis venu ici? Pourquoi?
Vous êtes une faute de la nature, une erreur.
Relève la tête. Relève la tête, je te dis.
Quoi ce truc là?
Non.
Et puis,
y a quoi là-dedans? Non, y a...
Dites-le moi.
Pourquoi j'ai voulu qu'on se rencontre là? Y a quoi là-dedans? Non, y a quoi là-dedans?
Y a rien.
Moi aussi j'aurais pu venir un monstre, hein?
Un monstre?
La bande-annonce du film en mille morceaux de Véronique Mériadec. L'histoire, en 1977, Éric Gobert assassine Olivier, l'enfant de Nicole Parmentier. 25 ans plus tard, cette mère à la vie brisée donne rendez-vous au meurtrier qui vient de sortir de prison. Ce film a été projeté la semaine dernière au cinéma L'Amphi à Bourg. Une projection suivie d'un débat sur la justice restaurative à l'organisation LAVEMA, association d'aide aux victimes et médiation dans l'Ain, le SPIP, service pénitentiaire d'insertion et de probation, et la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse. Ces structures vont développer dans l'Ain des rencontres restauratives. Claire Brasseur, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes de LAVEMA, investie dans les projets en cours. Catherine, bonjour.
Bonjour.
Tu es bénévole à la radio, tu étais à cette projection débat, pas pour faire un reportage, mais parce que tu es intéressée par la justice restaurative. Tu nous en diras plus dans quelques minutes, mais déjà, tu as quelques questions à poser à notre invité.
Bonjour Claire.
Bonjour.
Le film en mille morceaux n'est pas sur une rencontre de justice restaurative, mais on assiste aux échanges entre une mère et le meurtrier de son fils. Pourquoi ce film pour introduire la justice restaurative ?
Alors effectivement, ça n'a rien à voir avec la réalité, on est bien dans la fiction, mais parce que deux personnes, on s'aperçoit, hein, deux personnes qui ont été, comment on pourrait dire ça, victimes, toutes les deux, par l'infraction, ont toutes les deux aujourd'hui des souffrances. Alors que ça soit la victime, même si le meurtrier a fait 25 ans de prison, elle reste avec des questions qui sont restées en suspens, sans réponse. Et puis ce meurtrier qui, malgré ses 25 ans de prison, a encore des choses à dire et des souffrances qui restent là. Et cette rencontre qui permet de mettre en lumière que... il y a un intérêt profond à ce que ces deux personnes puissent se rencontrer pour pouvoir continuer à avancer, oui, après tout ça.
J'ai bien entendu, hein, deux victimes, effectivement, un auteur, une victime, mais deux victimes. En quelques mots, est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs ce qu'est la justice restaurative, la philosophie de cette institution, comment on l'appelait une...
Alors moi j'aurais presque envie de dire que c'est un processus, c'est quelque chose qui est mis à disposition des personnes, qu'elles soient victimes d'une infraction ou qu'elles soient mises en cause dans le cadre d'une infraction, qui permet d'offrir un espace de dialogue pour pouvoir mettre des mots sur des souffrances, pour pouvoir poser des questions qui sont restées en suspens, qui n'ont jamais pu être abordées dans le cadre du procès. C'est un processus qui permet d'offrir une sorte de réparation à une victime comme à un auteur, parce que chacun a besoin de se réparer à l'endroit où la souffrance est encore présente.
Donc on parle bien d'une démarche tout à fait humaine, réparation humaine. Pour que ce soit plus facile à comprendre pour nos auditeurs, pouvez-vous nous expliquer en quelques mots l'histoire de cette justice restaurative, depuis quand existe-t-elle dans le monde, en France ?
Alors, en fait, elle est apparue il y a quelques années, essentiellement dans un premier temps dans les pays anglo-saxons, suite à des recherches de chercheurs hein, sur les types de peines, sur l'évolution de la criminalité et sur les modes de gestion de conflits. Et puis, les recherches ont abouti au fait que la criminalité augmente, qu'il y a peu de considération et peu de prise en charge de victimes et d'auteurs sur les répercussions de l'infraction au niveau humain. Et donc, ça a vu le jour en 1960 à peu près dans les pays anglo-saxons. Aujourd'hui, au Canada, par exemple, hein, si on prend l'exemple du Canada, c'est inscrit dans les mœurs. Ça fait partie d'un complément de justice pénale. Voilà. Et puis, ça fait son chemin de pays en pays. C'est arrivé en France il y a quelques années avec la loi de 2014, une circulaire en 2017 qui vient préciser un petit peu cette possibilité. Et puis, petit à petit, ça se met en place dans différentes régions de France et ça arrive petit à petit vers chez nous.
Donc, la loi de 2014, c'est la loi Taubira, hein, quand ça. Christiane Taubira a été ministre de la Justice. Et donc, à qui s'adresse-t-elle? Bien sûr, auteurs, victimes. Mm-hmm. Comment ont-ils l'information? Là, je vous pose des questions peut-être un petit peu plus pratiques. Toujours pareil, pour une meilleure compréhension.
Alors, effectivement, ça s'adresse à n'importe qui s'estime victime d'une infraction. La personne qui est victime peut être informée par son avocat, par les travailleurs sociaux qu'elle rencontre, par le milieu judiciaire. La personne qui est mise en cause, pareil, elle peut être informée par le système judiciaire, mais elle peut être aussi informée par son conseiller pénitentiaire qui le suit par rapport à la réponse de la peine ou par tout un travailleur social. Peu importe. Voilà. En tout cas, l'objectif, c'est que les personnes soient informées de l'existence de ce processus et qu'elles soient en capacité de pouvoir s'en saisir au moment qui leur semble le plus opportun. Parce que, bien entendu, il n'y a pas d'obligation. On est bien sûr quelque chose de volontaire.
Voilà, ça, on le reprécisera bien. Là, je voudrais qu'on parle de l'influence ou non de cette démarche sur la décision pénale. Parce qu'on a bien entendu que le monde judiciaire doit faire partie de cette démarche également. Mais attention par rapport au... Alors, à la procédure pénale.
Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, il y a la justice pénale et la justice restaurative, c'est quelque part un processus complémentaire. C'est-à-dire que en aucun cas, ça vient interférer dans une réponse pénale. Ça ne viendra pas influencer un magistrat sur une décision, par exemple. Il n'y a pas de bénéfice secondaire au niveau pénal pour une personne qui s'investit dans ce type de mesure. Le bénéfice, il est essentiellement humain. Voilà.
Ouais, d'accord. Et cette démarche, elle peut intervenir à n'importe quel moment de la procédure, dit la circulaire.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que à partir du moment où l'instruction elle est terminée, que la personne ait déjà purgé sa peine, qu'elle soit en cours ou qu'elle n'ait pas commencé, voire même qu'il y ait eu un classement sans suite, ces personnes, n'importe qui, peut prétendre à une mesure de justice restaurative.
D'accord, donc on va un petit peu parler de ce qui se passe dans l'un et comme ça, ça va nous permettre de rentrer peut-être un petit peu plus dans une compréhension pratique. Mm-hmm. Donc dans l'un, quelle structure soutient ce projet?
Alors, on est trois structures à s'être associées sur différents projets. Donc la protection judiciaire de la jeunesse, c'est-à-dire une structure du ministère de la Justice qui prend en charge des mineurs auteurs d'infractions. Là, le projet se tourne essentiellement entre la PJJ et nous sur des mineurs qui auraient commis des infractions d'atteinte aux biens, par exemple, pour guider ces jeunes... dans une meilleure compréhension des répercussions que peuvent avoir un vol, par exemple, ou un cambriolage sur une victime, qu'il ne s'agit pas simplement de porter atteinte à du matériel, mais bien à un être humain, amener ces jeunes à percevoir, à être un minimum dans l'empathie et à percevoir un petit peu qu'en face, il y a quelqu'un qui peut souffrir d'un tel comportement. Et puis, au niveau des adultes, on travaille avec le SPIP, donc c'était le service pénitentiaire d'insertion et de probation, qui, lui, accompagne des majeurs, des adultes qui ont commis une infraction, qui ont été condamnés. Voilà. Et là, on est plutôt sur des rencontres différentes, soit des violences conjugales, soit ça peut être aussi de l'atteinte aux biens, des infractions au code de la route dans lesquelles il y a eu des blessés ou des décès.
Voilà, ce que vous citez comme infraction, c'est un petit peu comme une sélection que vous, les structures porteuses du projet, avez faite pour... Bah pour cibler les rencontres, en fait, pour, il me semble, expliquer-nous un petit peu ça.
Et ben, en fait, on est un peu dans un processus novateur pour nous. Donc, on part de notre pratique, des besoins qu'on recense au niveau de nos pratiques respectives. Et pour l'instant, c'est sur ce type d'infraction qu'il nous semble avoir le plus de besoins. Après, on part là-dessus pour l'instant. On ne peut pas savoir. Ça se trouve dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, les besoins se porteront sur d'autres types d'infractions. On s'adaptera.
D'accord. Donc, ces trois structures existent. Mmh. Et depuis quand ce projet existe-t-il? Cette fois, on va parler vraiment de l'un. Et allez-y, parlez-nous.
Alors, avec la PJJ, on est en réflexion depuis de nombreuses années. Et puis, ça prend du temps de se retrouver, de créer, de penser quelque chose qui correspond aux besoins de ces mineurs. On est sur des pratiques un petit peu particulières pour les mineurs, hein, avec une bienveillance qui est très particulière par rapport aux adultes. Donc, j'ai envie de dire, on est là-dessus depuis 2 ans. Facilement avec la PJJ. Au niveau du SPIP, on est dessus depuis 1 an à peu près, avec des créations de conventions qui se sont signées ou qui vont se signer, des cahiers des charges qui sont en train de s'élaborer, des groupes de travail qui sont bien en pratique. Voilà, donc ça avance à grands pas.
Voilà, donc on est dans un projet qui se met vraiment, vraiment en route, quoi. Hein. Et comment expliquer à nos auditeurs concrètement, en fait on appelle ça les rencontres, expliquer ce processus des rencontres restauratives, qu'elles soient en individuel ou en groupe, et après on pourra continuer à expliquer.
Alors effectivement, vous dites en individuel et en groupe, parce que il y a plusieurs types de rencontres de justice restaurative. Il en existe au moins 6 ou 7 versions différentes. Nous, dans l'un, on s'est vraiment axé sur de l'individuel, donc un auteur face à une victime. Ou des auteurs face à des victimes en fonction de ce qu'on recherche et des besoins repérés chez les personnes. Quand on est face à des groupes, il faut bien imaginer qu'on peut avoir par exemple 4 auteurs et 4 victimes, ce sont 8 personnes à préparer. Pourquoi préparer? Parce qu'en face, on a des êtres humains, que l'idée, c'est pas simplement de se lancer à la va-vite et puis de leur dire, allez, vous allez vous rencontrer et puis dire ce que vous avez à vous dire. Non. Donc, chaque personne est rencontrée de manière individuelle à plusieurs reprises pour discuter de pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle en attend, qu'est-ce qu'elle est prête à entendre, qu'est-ce qu'elle n'est pas prête à entendre. Et ça, c'est fait avec les 8 personnes. Avant de travailler en groupe individuel, donc le groupe des victimes ou le groupe des personnes auteurs, et puis d'élaborer ensemble la rencontre de ces 2 groupes de personnes qui ont envie de se pouvoir se dire des choses. Quand on est sur de la rencontre restaurative, il y a vraiment un processus qui est hyper exigeant, qu'il faut vraiment respecter. Alors ça peut être long, fastidieux, mais c'est indispensable pour que chacun puisse cheminer à son rythme. Il faut bien savoir que, comme on est sur un processus volontaire, n'importe quelle personne qui s'est engagée peut aussi se désengager. Quelqu'un peut très bien dire aujourd'hui, moi, non, voilà, ça m'a apporté quelque chose, mais je ne me sens pas prête d'aller plus loin ou j'ai plus envie. Voilà. Et ça, c'est à respecter. Et dans ces cas-là, on recommence le processus avec quelqu'un d'autre. Il n'y a pas d'engagement définitif, quoi.
Et avant d'aller plus loin, est-ce que vous pouvez nous préciser les conditions nécessaires pour pouvoir participer à ces rencontres?
Alors, la première condition incontournable, par exemple, pour un auteur, c'est qu'il ait reconnu les faits. Voilà, la reconnaissance des faits est une condition, ça ne se discute pas. Si la personne n'a pas reconnu les faits, elle ne peut pas participer à une mesure de justice restaurative. Après, il faut que les personnes la soient volontaires. C'est-à-dire que ce n'est pas une mesure qui est imposée, mais une mesure qui est proposée pour lesquelles les personnes se manifestent volontaire, voilà.
D'où le fait que vous nous disiez, si au cours des rencontres, la personne se dit en fait j'arrête, elle a complètement le droit de le faire.
Et elle n'a pas à se justifier. Voilà.
D'accord. Et après, il y a aussi l'aspect de la confidentialité. Ça, je veux bien que vous nous expliquiez ça aussi.
Eh bien, c'est-à-dire que tout ce qui se dit, par exemple, dans les entretiens individuels de préparation à la rencontre, appartient à la personne. En aucun cas, le professionnel qui est formé à la justice restaurative est missionné pour porter la parole. Et dans les rencontres de groupe, chacun est libre de dire ce qu'il veut et la parole ne doit pas être réutilisée. Et ce qui est dit au sein du groupe reste au sein du groupe. Ça fait partie des conditions de participation à une justice restaurative. Les personnes qui participent et qui vont jusqu'au bout s'engagent à ça. Voilà. Mmh. Donc rien n'est réutilisé, rien n'est transmis à un magistrat, à un travailleur social. Non, ça appartient au groupe de personnes qui se rencontrent et ça n'influe sur rien.
Et ça n'influe sur rien, même si, oui, de toute façon, oui, même si la personne n'a pas encore été jugée, si l'enquête est encore en cours. Ça me paraît vraiment important, quoi.
La personne, par exemple, n'a pas exécuté sa peine. Elle peut dire des choses qu'elle n'a pas dit au procès. À partir du moment où ça n'atteint pas l'ordre public, ça appartient au groupe. Ça appartient aux personnes qui échangent entre elles.
Mmh. Avec effectivement voilà. ce point très important. Non atteinte à l'ordre public, ça c'est ça. Vraiment...
S'il y a révélation effectivement de faits graves, on a le devoir voilà, de porter à la connaissance, mais parce que c'est une mesure de protection aussi.
Claire Brasseur, pour ces rencontres restauratives, il y a des animateurs professionnels formés à la justice restaurative et des membres de la société civile, des bénévoles. Pourquoi les citoyens en plus d'animateurs professionnels?
Parce que quand on est face à des groupes, qui de mieux placé pour venir soutenir ces citoyens dans leur démarche que des citoyens lambda qui viendraient leur dire « allez-y, voilà, moi je représente la société et je valide la démarche dans laquelle vous êtes ». C'est une manière de venir encourager, une manière de venir valider une démarche qui est plutôt citoyenne, de reconstruction pour des gens qui vont retrouver, des gens qui vont sortir d'incarcération peut-être et qui à un moment ou à un autre auront besoin de ce regard neutre de la société et bienveillant.
C'est pas forcément des personnes qui sont concernées par un proche qui est ou pas, qui a été victime ou qui a un proche qui est en détention, par exemple.
Non, pas du tout. Ça peut, il n'y a pas de profil type, n'importe qui est intéressé et qui a envie de participer à tout ça pourra bénéficier d'une formation et soutenir ces personnes-là dans les processus de justice restaurative. Ça ne s'adresse pas à un profil de particulier ou à un professionnel à la retraite, par exemple, ou qui a du temps libre, pas du tout.
Catherine, tu as assisté à la projection à l'Amphi. Qu'est-ce qui t'a marqué dans le film en mille morceaux de Véronique Mériadec, en quelques mots?
Alors, ce qui m'a marqué dans le film, c'est effectivement cette démarche complètement humaine entre cette mère ravagée par la mort de son fils, ravagée depuis 25 ans, et qui a voulu rencontrer l'auteur du crime pour essayer de comprendre. Et tout le long du film, ça se déroule en huis clos, dans un lieu qui est tout à fait particulier. On a l'impression qu'ils ne peuvent pas en sortir. En fait, si, ils le peuvent, mais on a l'impression que l'extérieur n'intervient pas. Et tout le long du film, la tension est vraiment palpable entre ces deux êtres qui sont autant déchirés l'un que l'autre. Et là, je trouve que la réalisatrice a vraiment bien, bien réussi à pointer cette faille qui vaut autant pour la victime que pour l'auteur. Et puis après, symboliquement, parce qu'elle avait envie aussi, je pense, d'évoquer la justice restaurative dans un processus de positif. Petit à petit, la victime, la mère, va mieux. Et voilà, c'est un petit peu représenté symboliquement parce qu'elle enlève des vêtements qu'elle brûle. Et puis voilà, et puis elle s'en va et on la sent plus sereine. Et la tension tout au long de l'entretien est vraiment intéressante parce que ça pointe du doigt le fait que l'acte est commis. Et voilà, il existe, il a été fait et on n'a pas le choix. On va vivre avec. Et c'est là que cette démarche est très intéressante dans toute la possibilité d'aller chercher dans les ressources de chacun ce qui peut lui permettre d'être en résilience et de continuer à avancer dans la vie. Et je rebondis sur ce que disait Claire tout à l'heure, les membres qui seront, les bénévoles qui assisteront à ces rencontres doivent être là pour dire « Ok, on représente la société et oui, on a envie de vous accueillir dans cette démarche de reconstruction que vous engagez ».
Donc justement, Catherine, tu veux venir, tu aimerais devenir bénévole pour participer aux rencontres restauratives. Pourquoi?
Oui, alors c'est vraiment...
Tu vas choisir une raison.
Alors, une raison, eh bien, c'est vraiment parce que c'est une démarche humaine qui me séduit complètement. Bien sûr que la justice doit exister, la justice existe, les textes de loi existent, heureusement. D'ailleurs, cette démarche est complètement inscrite dans un texte de loi. Mais là, on a une démarche profondément humaine en parallèle à la démarche de justice. Et ça n'est pas non plus un hasard si elle s'appelle justice restaurative. C'est vraiment... On veut que les gens, quel que soit le fait qu'ils doivent se rencontrer, on veut leur faire être porteur d'espoir pour eux, porteur d'espoir sur une résilience, sur une possibilité d'aller mieux ensemble.
Claire Brasseur, comment ces citoyens seront formés pour participer à ces rencontres restauratives ?
Alors, dans ce projet, on est suivi par une référente de l'Institut français de la justice restaurative. Il y a des formations qui sont mises en place. Nous pourrons aussi former ces personnes-là. Mais bien évidemment, la formation est indispensable et on ne va pas s'improviser bénévole dans ce type de mesure. Il y aura des prérequis, bien entendu, pour pouvoir rentrer dans ce processus.
Et justement, si ça vous intéresse comme Catherine, il y a une journée conférence, tu veux en parler
Oui,
Catherine,
voilà, une journée conférence qui est prévue le lundi 29 avril à Bourg, elle est ouverte à tous, et il y a un petit flyer qui est passé, alors je ne sais pas, est-ce qu'on peut le trouver un petit peu partout, ou de toute façon on va vous donner le site après hein,
où il a été distribué, essentiellement aussi au cinéma, il a été envoyé par mail à tous les gens à qui on a diffusé l'information, il est disponible voilà, sur demande, il n'y a aucun souci, faut pas hésiter à appeler l'AVEMA, le SPIP ou la PJJ pour avoir plus d'informations. Et puis les inscriptions, effectivement, se font par mail.
Voilà, donc les inscriptions se font par mail au... Alors, ben, je vais vous le dire maintenant. sec.spip-1@justice.fr. Voilà, là, c'est là où vous devez vous inscrire. Les téléphones AVEMA, SPIP, je ne sais pas si vous les connaissez.
Alors, le SPIP et la PJJ, je ne les connais pas par cœur. Je connais celui de l'AVEMA. Donc, le 04 74 32 27 12. Surtout, il ne faut pas hésiter à appeler. Vous n'avez pas noté l'adresse mail. Vous voulez avoir des informations, le lieu, les horaires, tout ça. Voilà, vous n'hésitez pas à passer par ce numéro, par le site de l'AVEMA. Il n'y a aucun souci. Mmh. On répondra à toutes les questions. Et puis, on donnera des informations complémentaires sur cette journée.
Donc, le 29 avril de 9h à 17h au Vox à Bourg-en-Bresse.
Donc, c'est sur inscription. Et il faut s'inscrire avant le 1er avril.
C'est ça. Et c'est gratuit.
Claire Brasseur, merci. Vous êtes de l'AVEMA, Association d'aide aux victimes et médiation dans l'Ain. Catherine, merci.
J'ai juste une petite phrase à citer pour conclure. Pour nous informer sur la justice restaurative, il existe aussi, oui, on a oublié de vous dire, hein, l'Institut français de la justice restaurative. Un petit dépliant a été édité pour la soirée cinéma, hein, qui circule aussi dans Bourg. Et sur la première page, qui explique, est joliment illustré par des mains qui se tendent l'une vers l'autre, est citée cette phrase de Jean Cocteau qui dit: passer d'un regard qui dévisage à un regard qui envisage.
Merci Catherine.
Merci beaucoup.
Donc tu es bénévole à la radio et tu souhaites te former à ces rencontres restauratives. Alors tu parlais de l'Institut français pour la justice restaurative. Cet institut a son site internet, c'est justicerestaurative.org.
Radio B.
Radio B.
Quelques infos en bref. Dernier jour pour s'inscrire sur les listes électorales. Vous avez jusqu'à dimanche, le 31 mars. On vote cette année. Les élections européennes, c'est le dimanche 26 mai. Pour Bourg-en-Bresse, il y a trois possibilités. Au guichet du service population, du pôle Amédée des Merciers, par courrier au service population de la mairie ou via le site service-public.fr. Tous les électeurs, vous recevrez donc votre nouvelle carte courant avril. Plus de demandes de la prime d'activité, la CAF s'organise pour réduire les délais. Jusqu'à la fin mai, les permanences et accueils se feront par téléphone. Pas besoin de se déplacer, la CAF de l'Ain vous appellera à l'heure du rendez-vous. À noter, les accueils de Bourg et Oyonnax seront fermés les mardis et les jeudis jusqu'à fin mai. Toutes les infos sur caf.fr.
14e semaine pour les alternatives aux pesticides. La Frappe Nadelin propose une table ronde ce jeudi 28 mars à 20h à Foissia. Les invités, la Chambre d'agriculture de l'Ain, le syndicat du bassin versant de la Ressouze et des agriculteurs du territoire. Au programme échanges et buffets. Plus d'infos sur le site frappena-1.org. La Frappena aussi sur Radio B. Chaque mois, les chroniques du Hérisson présentent l'émission et les activités de l'association et met aussi l'accent sur la biodiversité locale. La dernière et toutes les émissions sont sur radio-b.fr dans les émissions rubrique Société. Et au même endroit, vous pourrez retrouver les chroniques « Quel avenir pour notre planète ?» réalisées par des élèves du lycée Lalande. Étudiants à vos appareils photo, la Maison des étudiants organise le concours hashtag J'adore Bourg. Publiez une photo d'un lieu que vous aimez à Bourg et dans ses environs, comme Assis, Perona ou encore Montrevel, sur Instagram avec le hashtag J'adore Bourg et mentionnez la Maison des étudiants @jeune01. Il y aura deux prix, celui du public et celui du jury, à gagner un appareil photo instantané. Étudiants, étudiantes, vous avez jusqu'au 5 mai pour publier votre photo. À vous les Burgiens, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Catherine, merci encore à nos invités et merci à vous pour votre écoute. Retrouvez À vous les Burgiens tous les lundis à 17h15, rediffusion mercredi à 13h, samedi et dimanche à 8h et à tout moment sur notre site radio-b.fr.